Un mois s'écoula, durant lequel Jean Michelet évita soigneusement de rencontrer Madame Auriol. De temps en temps, il envoyait sa femme prendre des nouvelles de Dinah. Elle allait un peu mieux. Il en était profondément heureux. Tout s'arrangeait donc. Il cherchait à gagner du temps, à se faire oublier, sans pour cela se conduire ainsi qu'un homme dur. Un après-midi, comme il se trouvait à son bureau, une des dactylos vint lui annoncer Madame Auriol. Sa première pensée fut de lui faire dire qu'il n'était pas là. Le pressentiment d'un malheur l'effleura. Elle allait encore lui demander un service. Pourtant, il n'osa pas ne pas recevoir Edith. À la vue de la jeune femme, il fut tout de suite rassuré. Elle était plus calme que la dernière fois qu'il l'avait vue. « Excusez-moi de vous déranger, » dit-elle. « C'est Madame Michelet qui m'a dit que je pouvais passer à votre bureau sans crainte. Je suis venue vous voir parce que je ne voudrais pas que vous pensiez que je vous garde rancune de quelque chose. Je serais même venue plus tôt si ma fille n'avait été malade. Maintenant, elle va un peu mieux et je suis tellement heureuse qu'il me serait pénible de penser que j'ai pu vous offenser ou que vous puissiez croire que je suis fâchée. Ma sœur m'a un peu aidée. Il n'est évidemment pas question de quitter Paris, mais j'ai de l'espoir à présent. C'est moi d'ailleurs qui ai été folle. Vous me pardonnez ? Je n'avais plus la tête à moi. Aujourd'hui, j'ai peine à croire que j'ai pu faire ce que j'ai fait. Je suis heureux pour vous, heureux comme tout, fit Jean Michelet, que ce changement de condition remplissait de joie. Alors, vous êtes à l'abri du besoin ? Oui, ma sœur a pu me donner un peu d'argent. J'ai payé M. Dossé, qui est terrible, vous savez. Ah, à un moment, je ne pouvais plus le supporter. Il venait presque tous les jours. Il n'y a que depuis que ma sœur m'a aidé qu'il ne vient plus. J'ai encore un peu d'argent pour régler le médecin, enfin pour la vie de chaque jour. Et au 1er janvier, mon beau-frère m'a promis de conduire Dinah à Lézin. Il va s'occuper de tout. Il va prendre des renseignements. Enfin, il va tout arranger. » Peu après le départ de Madame Auriol, l'entrepreneur quitta ses bureaux. Il était dans un tel état d'exaltation qu'il n'avait pu rester davantage enfermé. En passant devant une épicerie, il acheta une bouteille de champagne. Le soir, avant le dîner, il se rendit chez Edith. Il était 6 heures. La nuit était presque tombée. Dinah venait de s'assoupir. Elle était fiévreuse. Des plaques roses teintaient ses pommettes. Ses cheveux semblaient plus abondants que jamais et d'une vie extraordinaire. « Je vous apporte, madame, dit-il, un peu de champagne pour la petite. C'est un bon stimulant. Cela lui fera peut-être plaisir. »« Vous êtes trop gentil, monsieur Michelet. Il ne fallait vraiment pas vous déranger. » À partir de ce jour, l'entrepreneur se transforma complètement. Alors que la veille seulement de la visite d'Edith, il sortait de chez lui sans jeter un coup d'œil dans la direction du pavillon, de peur d'apercevoir Madame Auriol et d'être obligé de la saluer, son seul souci était, à présent, de rendre la maladie de Dinah moins pénible. Le matin, souvent, il n'allait plus à son bureau. Il le passait à jouer avec la fillette ou à lui raconter des histoires. Sa vraie nature avait repris le dessus, maintenant qu'il n'était plus question d'argent. Le soir, il quittait ses occupations plus tôt, de manière à passer une heure ou deux chez Madame Auriol, apportant de Paris tantôt un jouet, tantôt des fleurs, des fruits ou des sucreries. Après le dîner, il retournait au pavillon. Si l'enfant dormait, il causait avec la mère, à voix basse, l'encourageant, lui donnant des conseils, lui disant d'espérer. « Il y a, je puis vous le dire, affirmait-il, chaque fois que Madame Auriol manifestait quelques craintes. Des malades autrement gravement atteints que votre fille dans les hôpitaux de Paris. Croyez-vous qu'on les garderait, qu'on ne les enverrait pas à la campagne ou à la montagne si on ne comptait pas les guérir? À peu de choses près, l'air est partout le même. Du moment que votre fille est toujours dehors, c'est l'essentiel. » Madame Auriol ne demandait qu'à être convaincue. Elle disait alors « Nous interrogerons encore le docteur Piton. » Et ce dernier, à qui Jean Michelet avait expliqué la situation d'Edith, évitait de répondre. Dès que la fillette se plaignait, l'entrepreneur se levait, arrangeait les oreillers, lui donnait un verre de citronnade, lui demandait si elle ne voulait pas quitter le lit pour la chaise longue qu'il avait apportée le matin de sa villa, si elle ne voulait pas un jouet. Il lui mettait dans les bras une poupée. Elle était si faible que quelquefois, elle la laissait tomber. Il n'en fallait pas davantage pour qu'elle se mît à pleurer. L'hiver approchait. au mieux qui s'était manifesté le mois précédent, succédait un état fiévreux et une nervosité qui ôtaient le sommeil à l'enfant. À peine s'était-elle endormie qu'elle s'éveillait en sursaut, le front couvert de sueur, les yeux perdus. De nouveau, elle n'avait plus d'appétit. Des journées entières, il pleuvait. Dans la chambre, aux fenêtres fermées, elle dépérissait. Pourtant, chaque fois que Jean Michelet arrivait, un léger sourire errait sur son visage. Il avait gagné sa sympathie. Elle ne lui parlait pas, mais parfois ne le quittait pas des yeux durant plusieurs minutes. Quand sa mère était seule près d'elle, il arrivait que Dina demanda faiblement « Où est Monsieur Jean? Je voudrais qu'il soit là. Va le chercher, maman. » Edith obéissait, et si l'entrepreneur était chez lui, il accourait avec un jouet quelconque, avec des bonbons, s'asseyait à côté d'elle et lui racontait des histoires qu'elle écoutait sans comprendre, mais ravie. Un dimanche après-midi, d'ordinaire, l'entrepreneur passait le dimanche à la campagne chez des amis, mais l'état de Dina s'étant subitement aggravé, il était resté à Paris. Jean Michelet trouva M. Dossé chez Mme Auriol. Il était assis, le chapeau sur les genoux, et semblait attendre, ce qui parut étrange à l'entrepreneur, qui savait le propriétaire très bavard. Edith était assise également, mais au pied du lit, les bras serrés contre le corps, penchée en avant, la tête baissée. À la vue de Jean Michelet, elle se leva tout à coup et sourit, mais d'une manière forcée, qui semblait indiquer qu'elle désirait que tout redevint normal. Cependant que M. Dossé, lui, ne changeait pas d'attitude, se contentant à peine de saluer le nouvel arrivant. L'entrepreneur eut le pressentiment que M. Dossé avait essayé d'embrasser Edith et que cette dernière, affolée, s'était réfugiée auprès de sa fille. Sous le prétexte de voir si le temps allait se mettre au beau, Jean Michelet sortit dans le jardin. Puis, par la fenêtre, il fit signe à Edith de le rejoindre. Lorsqu'elle fut près de lui, il la regarda avec douceur, et comme on questionne un enfant sur un sujet délicat, il lui demanda à voix basse « Il s'est mal conduit, n'est-ce pas? Il a essayé de s'approcher de vous ?» Elle ne répondit pas tout de suite. Depuis que l'état de la santé de sa fille s'était aggravé, elle avait de nouveau perdu le sens des réalités. Elle croyait être la cause de tout ce qui lui advenait. Elle avait l'impression que si elle avait été calme et heureuse, les gens qui l'entouraient eussent eu un autre visage. Dans sa détresse, le seul être sur qui elle s'appuyait, en qui elle avait confiance, était Jean Michelet. Elle le regarda un instant avec une expression d'affolement, puis dit « Oui, il veut se marier avec moi. Si j'accepte, il conduira Dina en Suisse. Il m'a supplié, puis il s'est fâché. Alors, sans savoir ce que je faisais, je l'ai insulté. Il doit m'en vouloir. » Jean Michelet, avant de prononcer un mot, remua les lèvres comme s'il eût voulu les mordre. Il prit la main d'Edith. Finalement, il demanda « Vraiment? Il vous a dit tout cela ?»« Oh, je ne sais plus, monsieur !» balbutia Mme Auriol, à qui cette histoire venait d'apparaître sans intérêt à côté de la santé de sa fille. « C'est bien, nous allons voir. Il vous fera des excuses ou il aura affaire à moi. » Jean Michelet sentait une colère sourde l'envahir. Ce qu'il avait redouté était donc arrivé. Cet homme avait profité de la détresse d'une femme pour être grossier. Sans dire un mot, en apparence très calme, l'entrepreneur entra dans le pavillon. « Mon cher Dossé, dit-il, vous allez faire des excuses devant moi à madame. Vous m'entendez ?» Monsieur Dossé le regarda en simulant l'étonnement, puis dit « Des excuses? Mais vous êtes fou ! Qu'est-ce qui arrive ?»« Vous ne voulez pas faire d'excuses ?» cria Jean Michelet, qui peu à peu perdait sa maîtrise. « Je n'ai pas d'excuses à faire à madame ni à personne. »« Venez dehors, Dossé, venez. Vous êtes un lâche, vous comprenez? Vous êtes le dernier des lâches. » À ce moment, les éclats de voix éveillèrent Dina. Comme si elle eût été aveugle, ses yeux s'agrandirent sans que, pourtant, elle regardât la scène. Elle était terrifiée. Sa mère s'était approchée d'elle et, tout en la serrant dans ses bras, enjoignait à Jean Michelet de ne pas crier. « Lâche, lâche !» continuait celui-ci. « Vous n'avez pas honte? Vraiment, j'aurais tout cru de votre part, sauf cela !» La fillette éclata en sanglots. Elle tremblait de peur. « Voilà ce que vous faites, vous !» cria à son tour Dossé. Quand on veut jouer au protecteur, on ouvre son portefeuille. Vous m'entendez, monsieur Michelet? On n'a pas peur de l'ouvrir. Je suis franc, moi au moins. Ce que je propose est honnête. On est libre d'accepter ou de refuser. Je ne force personne. Mais si l'on accepte, on peut compter sur moi. » À ces mots, pour la première fois de sa vie, l'entrepreneur entra dans une colère telle qu'il se sentit capable de tuer son interlocuteur. Il n'entendait plus les supplications de Madame Auriol, ni les sanglots de l'enfant, ni les paroles que continuait de prononcer Dossé. La scène avait pris tellement d'ampleur qu'Antoinette accourut. « Qu'est-ce qu'il y a ?» Les deux hommes étaient à présent dans le jardin. Dossé reculait vers la grille, cependant que l'entrepreneur l'injuriait. Madame Auriol s'était tue. Elle était pâle. Toute sa pudeur, toute sa fierté s'était envolée. Il lui semblait qu'on tuait son enfant. Chaque cri la déchirait. Elle sentait dans ses bras Dina qui tremblait des pieds à la tête. Finalement, Antoinette parvint à séparer les deux hommes et à entraîner son mari vers la villa. Une demi-heure après, Jean Michelet retournait chez Madame Auriol. Elle n'avait pas bougé de place. Dina gémissait, les yeux ni fermés ni ouverts. On les voyait, immobiles, à travers les cils. Cette dernière scène avait transformé l'entrepreneur. Lui, d'ordinaire prudent, il semblait décidé à tout pour sauver l'enfant. « Il faut l'envoyer en Suisse, dit-il, tout de suite. » Madame Auriol ne l'entendit même pas. Il s'approcha de l'enfant. « Allons, Dina, souriez donc, souriez gentiment, c'est moi qui suis là. » Madame Auriol s'était levée avec un soin infini pour ne pas tirer la fillette de la torpeur où elle était tombée. Jean Michelet s'assit à côté de Dina. Il ne la quittait plus des yeux. Il entendait derrière lui Edith qui pleurait en se retenant. Il ne se retourna même pas. Il ne pouvait détacher son regard du visage de l'enfant. De temps en temps, il balbutiait quelques mots tendres que la fillette n'entendait pas. Soudain, elle ouvrit les yeux, des yeux qui ne voyaient rien, mais qui se posèrent tout de même sur Jean Michelet. Il retint son souffle. Les yeux restèrent ouverts. Il lui parut alors qu'insensiblement, bien qu'il ne bougeât ce point, il se fixait avec plus d'intensité sur lui. Les lèvres étaient encore vivantes. Un peu d'air agitait les cheveux aux tempes. Il regarda ses cheveux. Ils se mouvaient avec une légèreté extraordinaire et, tout à coup, il vit les yeux fixes, le visage pâle, quelque chose d'infiniment serein courir sur ce visage d'enfant, des ombres aux confins des joues, autour des lèvres, et plus rien qu'une chose inerte. Il comprit que Dina était morte.